Frédéric Rivière, vous recevez l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste Français, Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour Jean-Christophe Cambadélis.
Bonjour.
Les universités d'été du PS qui se sont tenues ce week-end à Blois ont-elles, selon vous, mis le Parti Socialiste en ordre de marche pour la présidentielle de 2022?
Non, c'était un galop d'essai dans la torpeur de la fin de l'été, comme souvent dans les universités d'été où il y a eu, je dirais, beaucoup d'annonces et pas mal de flou sur ce que sera l'avenir du Parti Socialiste.
Vous êtes d'accord avec les critiques formulées ce matin par Julien Drey dans les colonnes du Parisien, qui reproche au premier secrétaire Olivier Faure deux choses? D'une part, de vouloir précipiter la désignation ou la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle, et d'autre part, d'avoir présenté au cours de ces universités d'été un projet présidentiel insuffisamment ambitieux, d'une part, et obtenu sans véritable concertation.
Oui, il y a du vrai dans ce qui est dit, même si c'est un peu exposé de manière excessive dans le propos. Vous savez, je crois que la gauche en général et le Parti Socialiste en particulier sont dans une situation très difficile.
Julien Drey parle de situation apocalyptique.
Oui, on n'est pas loin de cela. C'est-à-dire que la gauche est dans le chaos en attendant le chaos. Elle est datée, divisée et radicalisée. Si on veut revenir
quand
aux affaires...
radicaliser, vous pensez...
Radicaliser sur tous les sujets, c'est-à-dire que quand on est à gauche sur les questions sociales, on est ultra-gauche. Quand on est à gauche sur les questions écologiques, on est ultra-écolo. Ou quand on est sur les questions sociétales, on est ultra en défense des minorités, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la culture de la responsabilité a disparu de la gauche.
Elle est devenue caricaturale, d'une certaine manière, la gauche.
Oui, tout à fait, mais elle est surtout très datée. C'est-à-dire que ce qu'elle avance, ce sont des solutions forgées sur des concepts des années 60. On ne prend pas en compte la situation actuelle. Par exemple, la gauche fait l'impasse complètement sur les questions régaliennes, sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, sur la question de l'identité républicaine, ou que sais-je encore. Et elle reste complètement dans le vocabulaire, les propositions... des années 80.
Une gauche rassemblée derrière une seule candidature pour l'élection présidentielle de 2022, c'est un scénario totalement inimaginable.
Ce n'était pas inimaginable, c'était possible et c'était sûrement nécessaire si on voulait, dans la fragmentation telle que nous la vivons sur le plan politique, exister lors de l'élection présidentielle et d'élections législatives, parce que je rappelle qu'après l'élection présidentielle, il y a des élections législatives, et s'il y a 5 candidats par circonscription, je vois pas qui, à gauche, sera élu aux législatives. Donc, on est sans un mauvais train, comme on dit maintenant. Je pense que il aurait été possible de faire une grande primaire de l'ensemble de la gauche et désigner ainsi le candidat ou la candidate censée représenter l'ensemble des gauches à l'élection présidentielle. Mais Mélenchon n'a pas voulu, les écologistes n'ont en tête que de passer devant le Parti Socialiste, le Parti Socialiste se remettait de sa défaite, le Parti Communiste n'a pas voulu être derrière Mélenchon. Bref, nous avons aujourd'hui 5 ou 6 candidats, puisque Montebourg va se lancer dans quelques jours et on attend
le 4 septembre, dit-on. Il y a aujourd'hui d'assez nombreux cadres du Parti Socialiste qui placent en tout cas leurs espoirs en Anne Hidalgo pour cette présidentielle. Pour vous, quels sont ses atouts pour cette bataille, exception faite de sa notoriété?
D'abord, c'est pas négligeable, sa notoriété. Ensuite,
oui, parce que... Mais ça fait pas non plus un projet.
Oui, mais pour gagner une présidentielle, vaut mieux être reconnu. Et reconnu. Ensuite, parce que avoir dirigé maintenant depuis près d'une décennie une ville qui est quasiment un État, comme Paris, ça lui donne une certaine stabilité ou une capacité à proposer aux Français. C'est une femme qui a su à la fois imposer son orientation et rassembler l'ensemble de la gauche autour d'elle. Mais le problème, c'est que si on enferme Anne Hidalgo dans le Parti Socialiste, si on a une stratégie du bastion, elle a peu de chances de sortir rassembleuse. Et c'est un peu ça qu'on peut reprocher à l'étape actuelle. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire deux choses. Soit se mettre tous derrière Anne Hidalgo, soit d'organiser une primaire.
Oui, parce que c'est, pour l'instant, rien n'est clair de ce point de vue-là, sur le mode de désignation du candidat.
Non, c'est toute l'habileté du premier secrétaire qui dit qu'il
y aura... Les premiers secrétaires sont faits pour être habiles, non, vous le savez.
Il semble. Qui dit qu'il y aura une primaire, mais qui en même temps dit que ce ne sera pas une primaire. Donc, c'est un objet, c'est un ovni politique intéressant, mais qui ne mériterait d'être explicité.
Alors, le premier secrétaire, justement, dans son discours à Blois, Olivier Faure, a parlé d'une élection qui pourrait être un nouveau 10 mai 81, allusion à la victoire de François Mitterrand. Est-ce qu'il y a de la pertinence dans ce parallèle?
Bien, écoutez, ça ne sera pas de la même façon, mais ce n'est pas impossible. Je m'explique en 30 secondes. Parce que, vous avez vu l'offre aujourd'hui, il n'y a pas un segment de la vie politique qui ne soit pas représenté à l'élection présidentielle. Donc la qualification pour le deuxième tour de l'élection présidentielle sera extrêmement basse. Un peu comme en 2002. Ouais. Hein, on se souvient.
Ouais, ça pourrait être encore plus bas.
Hein, puisqu'à partir du moment où vous avez une offre pléthorique, évidemment, vous n'avez pas de dynamique autour d'un seul candidat et il y a une déperdition. Donc, le problème, c'est d'atteindre ce seuil de qualification. Pour cela, il faut être clairement identifié, il faut incarner une gauche responsable et il n'est pas impossible d'être au deuxième tour. Et à ce moment-là, au deuxième tour, soit vous êtes face à Marine Le Pen et c'est la démocratie contre Marine Le Pen, soit vous n'êtes pas face à Marine Le Pen et c'est le retour du droit de gauche. Donc ce n'est pas impossible. Mais le préalable, c'est pas de dire c'est possible. Le préalable, c'est le chemin, c'est comment faire, c'est-à-dire être capable de défendre une République impartiale, un nouveau contrat social écologique, une France d'influence dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui.
Jean-Christophe Cambadélis, pour vous, la France a-t-elle fait ce qu'elle devait faire en Afghanistan depuis le retour des talibans à Kaboul?
On a un peu tardé, mais aujourd'hui, on est sur la bonne voie, je crois. Le président de la République s'est exprimé à Bagdad, il a dit ce qu'il fallait à dire, j'y ajouterais peut-être
Souhaité une zone sécurisée aussi à Kaboul.
Voilà, une zone sécurisée
que les talibans refusent.
Oui, mais il a fait des propositions et il faut créer des coalitions, tout ça. Mais le grand débat, c'est où nous fixons la ligne rouge aux talibans. Ça, ce n'est pas dit. Et la ligne rouge, c'est que Kaboul et l'Afghanistan soient à nouveau un sanctuaire du terrorisme international. C'est là où il faut porter le fer, si je peux m'exprimer ainsi.
Est-ce que vous croyez que les talibans d'aujourd'hui, ceux qui viennent de prendre le pouvoir à Kaboul, soient différents de ceux qui contrôlaient déjà l'essentiel du pays entre 96 et 2001?
Bah, écoutez, c'est quasiment les mêmes, donc on va pas dire que
certains spécialistes, certains géopoliticiens, disons, ne sont pas les mêmes. Ils ne pourront pas refaire la même chose.
Bah non, bien sûr, ils ne vont pas faire la même chose parce qu'ils font de la politique et ils ont appris qu'en faisant la même chose, ils prenaient quand même la première puissance mondiale, etc. Mais ce qui a beaucoup changé, si vous me permettez aussi, c'est que c'est une victoire de la Chine par procuration sur les États-Unis. Donc ils ont derrière eux une puissance stratégique majeure, qui est la Chine, et un axe entre Téhéran, Kaboul et Islamabad, ce qui change beaucoup de l'isolement qui était le leur quand ils sont arrivés la première fois au pouvoir.
Merci Jean-Christophe Cambadélis.